Jonas, chapitre 3, versets 1 à 5, et le verset 10. Jonas, chapitre 3, le livre du prophète Jonas, chapitre 3, versets 1 à 5 et verset 10. Au nom de Jésus. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois, en ces mots, « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. » Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville, de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait « Encore 40 jours et Ninive est détruite. » Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Verset 10. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Amen. Je ne sais pas ce que vous vous rappelez, l'engouement lorsque les femmes des séries célèbres telles que Harry Potter et compagnie sortent sur les écrans, Harry Potter saison 2, Star Wars saison 2, saison 3. Alors tous les super fans se mettent devant la TV pour voir juste la bande-annonce pour la sortie de la nouvelle saison. Et lors de la sortie des bandes-annonces, les superfans se précipitent à chercher les informations, à lire et à écouter ce qui en est. Le texte que nous avons pour la méditation de ce jour parle aussi d'une saga. Jonas saison 2. C'est là le texte aujourd'hui. Alors que cette saison 2 soit bien clair dans tout le monde, dans la tête de tout le monde, il faudrait savoir quand même ce qu'il en est de la saison 1. Pourquoi je dis que nous sommes dans la saison 2? C'est à cause du verset 1, qui est peut-être anodine pour le lecteur. Il est dit, la parole du Seigneur parvint à Jonas une deuxième fois. C'est un détail qui ne passe pas inaperçu. Alors que s'est-il passé avant, précédemment? Si on résume un peu l'histoire de Jonas, vous le savez tous, parce que dans l'école du dimanche ou au culte des enfants, je pense que cette histoire est bien connue. Jonas, il avait refusé au tout début la mission que l'Éternel lui a confiée d'aller prêcher à Ninive. Non pas par fainéantise ou par désobéissance, ce n'est pas quelqu'un qui n'est pas engagé dans la foi. Rappelez-vous, c'est un prophète. Donc, ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas quelqu'un, mais je n'ai pas le temps ou je n'ai pas envie. Non. Il a refusé de le faire parce qu'il sait bien que ce Dieu qui est en train de lui parler lui demande quelque chose de trop pour lui. C'est too much. Trop que c'est trop, cette demande, Seigneur. Ce que tu es en train de me demander est inacceptable. Pourquoi? Il a raison, Jonas. Il ne faut pas tout de suite lui jeter la pierre. Il a refusé de le faire parce que normalement, un prophète doit être envoyé vers les enfants d'Israël. Or là, on l'envoie vers les païens. Il dit, là, il y a quelque chose que je ne comprends plus. Tu sors de ton cadre habituel, Seigneur. Un prophète ne doit pas être envoyé vers les païens, mais vers les enfants d'Israël. Mais supposons que Dieu envoie un prophète vers les païens. Tout au moins, si Dieu l'envoie vers eux, il aurait espéré que le message que Dieu lui confierait serait un message de jugement et de condamnation. Parce qu'il faut savoir qui était Ninive, c'est la capitale où il y avait les Assyriens. Et les Assyriens qui étaient au nord d'Israël ont fait du mal au peuple d'Israël. Donc on envoie le prophète pour que ce pays se repente. Or, c'est l'ennemi d'Israël. Alors là, Jonas dit « Non, j'y vais pas. » Je pense que toi et moi, on aurait pu faire la même chose. Jamais je serai un traître face aux miens. Or, ce que Dieu lui a confié est encore un message de deuxième chance. Une proposition de porte de sortie pour Ninive. Pourtant, lui, il voulait vraiment voir ce peuple périr, disparaître une bonne fois pour toutes. Je vous invite, quand vous arriverez chez vous, à lire l'histoire de Jonas. C'est assez courte, très intéressante. Une très belle histoire, une histoire d'aventure entre l'Éternel et son serviteur, que je souligne ici, le serviteur de Dieu qui boude à un certain temps. Je ne veux pas. Et comment il a montré cela ? Il a même pris la fuite, espérant se cacher de la face de Dieu. Mais comme vous le savez tous, il fut avalé par un gros poisson pendant combien de jours qu'il était dans le ventre du poisson ? 3 jours. 3 jours. Et ce n'est que par la suite que le poisson le vomit sur la terre ferme. Mais il a fallu passer par cette expérience-là pour Jonas, pour que Jonas ait compris la considération de l'Éternel sur la valeur de la vie d'une personne. Tu étais dans les séjours des morts, Jonas, et tu comprends maintenant la douleur d'une personne qui est perdue. Si tu n'as pas vécu, tu ne comprendras pas pourquoi j'ai mal pour Ninive. Si ce n'était que juste par théorie, oui, Dieu aime les pécheurs, oui, voilà, c'est dans les bouquins. Mais là, il a vécu. Il a compris pourquoi Dieu voulait l'envoyer à Ninive. Parce que lui, il était à leur place. Quand une situation nous touche personnellement, c'est là que nous sentons, que nous comprenions ce que les autres peuvent vivre. Tant que ça ne nous touche pas, regardez bien ici, dans le texte, il est dit qu'il a fallu combien de jours à Jonas pour faire le tour de la ville ? 3 jours. Intéressant donc comme parallèle ici. 3 jours dans le ventre du poisson, 3 jours pour faire le tour de Ninive, afin que tout le monde puisse entendre le message. La première chose qui nous différencie énormément de Dieu, c'est sa patience. Dieu est tellement patient. Souvent on dit, oui, Dieu est pressé. Ce n'est pas vrai. C'est nous qui sommes pressés. Et on veut bousculer Dieu à suivre notre rythme. Mais Dieu, lui, il a tout son temps. C'est pour ça qu'on l'appelle l'Éternel, d'ailleurs. Sa patience envers les pécheurs. Il est vrai que la colère de Dieu arrive ici à son paroxysme, dans ce texte. Sinon, il n'aurait pas envoyé Jonas, il était en colère. Il ne joue pas avec le péché, il ne négocie pas avec le mal, certes. Mais avant qu'il exécute la sentence prévue pour cette ville, Dieu donne encore une dernière chance à Ninive. C'est ce qui a rendu furieux Jonas. Parce que lui, il voulait qu'immédiatement, maintenant, que Dieu fasse tomber la foudre sur la ville. Est-ce que cela ne fait pas rappeler une histoire dans les évangiles, l'attitude des disciples de Jésus qui voulaient faire disparaître tout un village d'un Samaritain à cause de leurs caprices personnels. Luc chapitre 9, versets 51 à 55. Je vais vous lire ce passage. Comme arrivaient les jours où il allait être enlevé, il prit la ferme résolution de se rendre à Jérusalem et il envoya devant lui des messagers. Ceux-ci, mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains afin de faire les préparatifs pour lui. Mais on ne l'accueillit pas, parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Et quand ils virent cela, c'est-à-dire les disciples Jacques et Jean dirent « Seigneur, veux-tu que nous disions au feu de descendre du ciel pour les détruire ?» Et Jésus se tourna vers eux et les rabroua. Intéressant, pourquoi Luc a précisé le nom de ses disciples ? Jacques et Jean, c'était les deux qui voulaient être à la droite et à la gauche de Jésus. Donc, ils se croyaient avoir des privilèges, puisque c'était les plus proches dans le cercle zéro de Jésus. Et donc, ils se croyaient qu'ils peuvent demander la mort de tout un village. Et là, Jésus les a remis à leur place. Chers amis, sachez-le, ce n'est pas du tout par gaieté de cœur que Dieu sanctionne ou punit un pécheur. Non. Dieu n'est pas comme le Dieu des païens. Puisque tu ne t'agenouilles pas devant moi, tiens, prends-la. Ce n'est pas ça notre Dieu. C'est pour cette raison que le Seigneur nous envoie vers les personnes que nous croyons même les plus infectes. Peut-être vers une personne qui se moque de ton Dieu, ton collègue, un étudiant ou une étudiante dans ta faculté, celui qui se moque de ta foi, oui, certainement pour lui que Dieu t'envoie. Vas-y. Parle-lui. Peut-être c'est un blasphémateur qui aime jouer avec des humours malsains. Peut-être c'est quelqu'un d'arrogant dans ses propos vis-à-vis de ton Dieu, etc., etc. La liste est longue. Étonnamment, oui, le Seigneur nous envoie vers eux. Toujours par souci de ce qui a été dit dans le verset emblématique que nous connaissons tous, Jean chapitre 3, 16, « Afin que quiconque ne périsse point. » C'est là le souci de Dieu. La traduction officielle liturgique catholique, quand j'ai lu ce texte, a rajouté un mot intéressant. Voilà ce qu'ils ont dit, la grande ville de Ninive. Ils ont rajouté la grande ville païenne. Cette partie-là, on ne le retrouve pas dans toutes les versions, que ce soit protestante ou autre. J'ai vérifié même le texte hébreu, il n'est pas là. Je dis pourquoi ils l'ont fait. Peut-être c'est une erreur. Non, je ne crois pas. Le texte hébreu ne fait aucune mention de païenne. Et même si le texte original ne parle pas aussi de ce mot païenne, alors je me suis posé la question, est-ce que cette proposition de lecture, je dis bien une proposition de lecture, serait juste une précision pour faire la différence entre le peuple d'Israël, puisque Israël n'est rien face à la Syrie, ou est-ce que c'est une façon de dire qu'il y a un lien probable entre la grandeur de la cité et de la qualité de son péché? Est-ce qu'il y a un lien, puisque la cité, elle est tellement grande, tellement prospère, tellement riche, tellement puissante, qu'elle vit dans des dérives? Je pense qu'on peut penser à cette deuxième probabilité. Pourquoi ? Parce que si on tient compte du premier chapitre, dans le livre de Jonas, au verset 2 de Jonas chapitre 1, le verset 2 fait le lien très clair, de façon explicite, la notion de grandeur et de péché. Il est dit ceci dans Jonas chapitre 1, verset 2, donc dans Jonas saison 1. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et fais une proclamation contre elle, car le mal qu'elle a fait est monté jusqu'à moi. » Va dans cette grande ville, car le mal que cette ville a fait est monté jusqu'à moi. C'est-à-dire que le mal est arrivé à son apogée. Par ailleurs, rappelons-nous aussi que l'ange du Seigneur a exactement dit la même phrase, que le mal est monté jusqu'à moi. Rappelez-vous de quelle histoire ? Abraham face à Sodome et Gomorre. Même construction de phrase. Bref, la destruction est le dernier recours de Dieu et non une fin dans le sens d'objectif à atteindre. Dieu n'a pas d'objectif à détruire. Il n'est pas comme un loup, comme un gamin. J'aime bien un anthropologue qui a dit « L'être humain, c'est un gamin attardé. » Un gamin attardé qui a tous les pouvoirs entre ses mains, donc il ne fait que détruire. Mais Dieu, lui, il est mature, il est mûr. La destruction, c'est à la fin, bien sûr, pour remettre les choses à leur place. En d'autres termes, chers amis, l'Éternel est long à la colère, vu qu'il a insisté auprès de Jonas à deux reprises pour revenir à Nineve. Vous imaginez un peu l'image, un Dieu tout-puissant qui supplie son serviteur de revenir deux fois. Est-ce que vous imaginez un peu cette histoire ? Est-ce qu'un roi pourrait demander deux fois à son sujet de faire quelque chose ? Je ne pense pas. Si tu n'obéis pas la première fois, t'es fini, t'es foutu. Ta tête sera... Mais Dieu, lui, dans toute sa puissance, il vient avec humilité vers son serviteur. S'il te plaît, Jonas, vas-y, deuxième fois. Mais le verset 10 nous montre en même temps qu'il est riche en bonté, prompt à pardonner. Et j'aime bien la façon dont le texte est structuré. Dès que l'Éternel a vu, ça veut dire au moment, minute même, sur le moment même, dès que l'Éternel a vu que le peuple s'est mis à repentir, il n'a pas attendu deux heures après ou un jour après, au moment même, qu'est-ce qu'il a fait ? Aussitôt, l'Éternel renonça au châtiment prévu. Tout de suite, il a effacé la punition. Et ce qui est magnifique, au moment même que le peuple se détourna de leur péché, l'Éternel, et j'ai bien aimé la traduction, s'est repenti de ses intentions. Dieu qui change d'avis, ça peut arriver. Ça, c'est moi je trouve ça magnifique, un Dieu qui change d'avis. Normalement, un Dieu ne changera jamais d'avis. Si c'est comme ça, c'est comme ça. Mais Dieu, dans toute sa puissance, peut changer d'avis quand toi, tu acceptes de faire ce qu'il te demande. C'est incroyable, non ? Un Dieu qui se met au même niveau que nous. Ça, c'est du jamais vu. Cela signifie quoi, chers amis ? Le Seigneur est toujours prêt à effacer nos péchés, nos fautes, quelle que soit leur ampleur, quelle que soit leur gravité, ce n'est pas le nombre ou la qualité du péché. Souvent, nous mesurons la bonté de Dieu par rapport au nombre de nos fautes, aux choses que nous avons accomplies. La notion de péché des hommes est totalement différente à celle de Dieu. Ce ne sont pas ses formes ni ses nombres qui entrent en jeu, mais son existence. Et ce qui est encore incroyable, mais c'est vrai, que c'est encore lui qui vient à nous et nous appelle pour nous pardonner. Dieu n'attend pas que tu viennes à lui pour demander pardon, c'est lui qui te supplie, viens que je te pardonne. C'est le monde à l'envers. Normalement, c'est le faible qui doit ramper devant le grand. Mais ici, c'est le plus fort qui descend et qui te dit, venez. Venez donc, dit le Seigneur dans Ésaïe chapitre 1, verset 18, nous allons nous expliquer. Et quand on arrête la lecture là, ça fait peur. Ouh, nous allons nous expliquer. Mais la suite, si vos crimes ont la couleur du sang, ils deviendront blancs comme la neige dehors. S'ils sont rouges vifs, ils prendront la blancheur de la laine. Telle est la promesse que Dieu donne. Ici, l'appel que Dieu lance est un appel pour être gracié, lavé de tout péché, de toute iniquité, et non un appel de règlement de compte, comme la plupart d'entre nous le feraient. Viens, je vais régler ton compte. Nous, les êtres humains, nous prendrons plutôt notre pied en voyant notre adversaire ou celui qui nous a fait du mal périr et souffrir à nos pieds. Ça nous fait plaisir. Mais Dieu, lui, ça lui fait mal au cœur. Alors, avant de quitter ce lieu de culte, gardons dans notre cœur cette parole de Jésus à la suite de l'indignation des Juifs, le voyant à la table des pécheurs, c'est-à-dire les ennemis de la nation juive à l'époque, les collecteurs d'impôts, les traîtres, les voleurs. Voici ce que Jésus avait dit dans Luc chapitre 9, verset 13. « Allez apprendre ce que signifie « Je veux la compassion et non le sacrifice ». Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Amen.